un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé.
Un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde sa douceur et sa beauté.
Encore des mots, toujours des mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais
je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime
le plus fort que je peux.
Et bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci Sana pour cette introduction. J'espère que vous avez pris du plaisir la semaine dernière à écouter cette émission avec tous les enseignements qu'il y avait à l'intérieur. Potentiellement, vous savez que vous les retrouvez en podcast si vous avez envie de les réécouter ou de les faire entendre à d'autres personnes parce que vous pensez que ça peut leur apporter des choses. Voilà, vous retrouvez généralement assez rapidement en podcast les émissions du jeudi soir, souvent peut-être même le vendredi, ou en début de semaine d'après. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est potentiellement, si vous avez envie d'appeler, si vous voulez réagir sur un sujet que je vais proposer, ou si vous voulez vous-même proposer un sujet en lien avec la relation à l'autre, et particulièrement la relation amoureuse, vous pouvez me contacter au 06 15 94 36 51. Voilà. Je crois que vous commencez à connaître ce numéro maintenant. L'idée, c'est que potentiellement, on peut aussi envisager l'émission d'une manière différente quand il n'y a pas de personnes qui viennent témoigner. Jusqu'à présent, c'est moi qui crée voilà, les émissions. Je sélectionne des extraits sur des sujets divers et variés, mais en lien avec la relation à l'autre. Et en fait, je me dis peut-être que vous pourriez être, force de suggestion. C'est-à-dire que si vous aviez envie que j'aborde ou que j'aille chercher des capsules, des informations en lien avec un sujet qui vous interpelle et qui vous intéresse, potentiellement, on peut le faire dans ce sens-là aussi. Voilà, vous pouvez être force de proposition et de suggestion pour de futures émissions sur des thématiques que vous aimeriez aborder ou voir aborder, que je puisse mettre en œuvre pendant l'heure de l'émission. Donc toujours pareil, 06 15 94 36 51, soit vous m'envoyez un SMS, soit vous m'appelez. Et voilà, c'est de manière assez simple et assez fluide, voilà, on fonctionne comme ça. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est que j'ai deux capsules pour vous, type enseignement, type montée en conscience de comment on fonctionne, comment fonctionne l'autre, comment fonctionne la relation en règle générale. Donc deux capsules sur ce sujet-là, une capsule qui est un témoignage, voilà, qui est un peu le cœur normalement de l'émission, donc du témoignage. Et ensuite, on aura des coupures musical et voire humour. On va voir comment, en termes de timing et de tempo, je peux mettre ça en place pendant l'émission. Voilà, alors, on commence. On va commencer avec la première capsule, qui est un piège qui sabote parfois les relations. C'est quand on ne sait pas mettre des limites à qui on est, à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et qu'on ne sait pas mettre des limites par rapport à soi et pour l'autre, pour se définir, que l'autre puisse nous comprendre, nous connaître, effectivement connaître nos limites et les respecter. Et ça, si on n'est pas en capacité de montrer à l'autre nos limites, de les dire, de les exprimer, l'autre va venir des fois dans des territoires ou dans des, voilà, nous chercher sur des espaces qui ne nous conviennent pas, va venir trop loin, ça va nous percuter, nous heurter notre sensibilité, heurter nos manières de fonctionner. Mais en fait, si nous, on ne s'est pas défini auprès de l'autre, comment il peut le savoir? Et souvent, le problème, c'est qu'après, on va critiquer l'autre en disant, mais tu te rends compte, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, comment ça, comment si. Oui, mais est-ce qu'au préalable, tu t'es positionné par rapport au sujet, par rapport à cette question voilà, est-ce que tu as dit qui tu étais, comment tu fonctionnais, pour que l'autre puisse, voilà, en face, lui-même ou elle-même, bien se positionner par rapport à ça. Voilà, donc c'est l'enjeu de la capsule. Écoutez, et puis à tout à l'heure.
Ces 6 dernières années, à partager des contenus sur les réseaux sociaux, j'en ai partagé des centaines, ça m'a appris l'une des leçons les plus précieuses de ma vie. Non seulement l'importance d'établir des limites, mais aussi de les renforcer au fil du temps. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous parler de moi, mais c'est pour vous donner un exemple concret comment j'ai réussi, au fil du temps, à établir ces limites claires et à ne pas me laisser envahir par l'autre. Parce que être exposé sur Internet, aborder des sujets qui touchent des points sensibles à l'être humain dans sa profondeur, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se retrouver dans cette position. Et encore moins quand on porte en soi un vieux schéma, celui du sauveur, ou le schéma de la servitude apprise, que j'ai expliqué dans de précédentes vidéos. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis pas en train de vous parler des critiques ou bien des commentaires haineux. Ça, à la limite, aujourd'hui, ça me fait presque rire. Je parle pas de ça. Je parle des personnes qui partagent leur détresse avec moi. Quand j'ai commencé, avec seulement 50 personnes qui suivaient ma chaîne, mon travail, c'était gérable. Mais plus la communauté grandissait, plus je recevais des sollicitations, beaucoup de messages, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Quand je vous dis beaucoup de messages, c'est aujourd'hui, par exemple, dans ma messagerie, j'ai plus de 700 messages non lus. Et parmi ces centaines de messages, beaucoup de personnes qui sont touchées par mes partages me partagent leur vécu à leur tour. Et a priori, vous allez me dire, mais où est le problème? C'est normal. Ce sont des gens qui me font confiance et je devrais en être fière. Oui, le fait que vous placez votre confiance en moi, m'envoyez votre vécu, ça me touche. Ça me touche profondément. Mais je vais vous montrer là où j'ai dû dire stop un jour. Au fil du temps, je me suis retrouvée face à des mails interminables, des récits poignants, des récits remplis de souffrance, remplis de détails que je ne voulais pas forcément connaître. Certains mails faisaient plus de 20 pages, voire plus, et je n'exagère pas. Et vous savez quoi? Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je vous dis, cette vidéo va pas être facile à écouter. Et j'espère que vous aurez assez de courage pour aller jusqu'au bout. Parce que certaines personnes vont se sentir concernées. Mais si je vous partage ça, c'est parce que c'est au cœur de la problématique que j'aimerais aborder aujourd'hui. Ce sont les limites floues, les espaces brouillés. Et pourquoi est-ce que c'est une source de souffrance chez beaucoup de personnes? Ça va perpétuer le même cercle vicieux qui va réactiver la douleur de l'abandon et du rejet. Alors, je reprends mon histoire de mail et vous allez voir où je veux en venir. La question que je me suis posée un jour, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ces mails? Parce que au début, je sentais un peu cette responsabilité que je dois lire ces mails, je dois lire ces détails même si j'en avais pas vraiment envie. Mais je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que j'avais envie de lire ça ou pas? Mais un jour, je me suis posé cette question. Est-ce que j'ai envie de lire ces mails? En fait, la réponse était non. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais demandé à le faire. Et là, j'ai compris quelque chose de crucial. Ces personnes, dans leur détresse, n'ont pas la notion de limite personnelle. D'ailleurs, c'est l'un des sujets que je vais le plus aborder sur ma chaîne. Je sais qu'elles ne le font pas exprès. Je le sais très bien. Et je ne remets pas du tout en question leurs intentions. Je sais qu'elles sont désespérées, qu'elles cherchent de l'aide, mais elles le font maladroitement. Très maladroitement. Parce que, voyez-vous, moi ou une autre personne à ma place n'a pas consenti à recevoir ces histoires. Personnellement, ça me faisait faire des cauchemars parfois. Parce que oui, on m'a raconté des choses horribles. Et j'avais pas forcément envie de lire ça. C'était pas le cadre surtout. Et ces personnes qui partagent leur vécu, leur détresse avec moi, sans me demander au préalable ma permission, si je veux bien lire leur témoignage, ne savent pas qu'ils sont en train de transgresser une limite. Elles ne savent pas que ce genre de comportement, c'est de l'intrusion. Elles sont persuadées qu'elles sont bien intentionnées et que c'est légitime ce qu'elles font. Elles ne peuvent pas imaginer la notion de cadre. Est-ce que le cadre est approprié ou pas? Parce qu'elles-mêmes n'ont pas de cadre dans leur vie. Elles sont mélangées dans l'espace des autres. La question des limites, ce n'est pas juste une question de savoir s'affirmer. Ce n'est pas juste une question de les 10 techniques pour dire non, les 10 phrases pour neutraliser une personne difficile. C'est pas d'avoir l'anti-sèche avec des phrases clés. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est utile d'avoir cette trousse de secours pour désamorcer un conflit ponctuel, une situation ponctuelle où vous êtes submergé par le stress, vous ne savez pas quoi dire, et hop, vous sortez votre phrase magique. C'est utile, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais ça, c'est une solution temporaire, c'est un pansement. Mais ça ne règle pas le problème au fond. Parce que la question des limites, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond que ça. Le principal problème, pour la plupart des gens qui ont du mal à poser des limites, ce n'est pas le manque de confiance en soi. Ce n'est pas la difficulté à s'affirmer. Ça fait partie des symptômes, mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce flou, ce mélange entre mon espace, l'espace de l'autre. Cette incapacité à distinguer clairement où je commence, où se terminent les autres. Et même lorsque ces personnes transgressent la limite d'une autre personne, ils ne se rendent pas compte. Non pas parce qu'ils veulent mal faire, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à reconnaître ce concept de limite. Le brouillage des limites, c'est l'idée que je vous propose d'approfondir dans une ressource exclusive que je vous offre, que j'ai spécialement conçue pour vous. Vous allez pouvoir identifier la racine du problème et comment ça vous empêche de poser des limites claires. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais c'est le premier pas si vous voulez vraiment comprendre ce qui vous empêche de poser des limites claires. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de cette vidéo, mais aussi le premier commentaire épinglé. En fait, poser des limites, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une option, c'est vital. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils manquent de limites. Parce qu'ils n'ont jamais appris à s'écouter, parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Pourtant, ils ressentent souvent ce sentiment d'être envahis, exploités, rejetés, abandonnés. Et sans le vouloir, ils vont parfois envahir l'espace des autres. Leur intention est bonne, mais leur manque de clarté sur leurs limites les empêche de voir qu'ils sont en train de franchir une ligne pour l'autre personne. Par exemple, et c'est juste un exemple, donner des conseils ou bien des avis non sollicités. Vous pensez peut-être aider l'autre personne, mais si la personne en face ne les a pas demandés, elle peut se sentir mal à l'aise. Elle peut même se renfermer et s'éloigner de vous. Et je ne suis pas en train de vous parler du fait que vous partagez la marque de votre shampoing préféré ou bien le produit miracle anti-rides avec votre meilleur ami. Je ne vous parle pas de ça. Je parle d'autres sujets, beaucoup plus sensibles. Vous allez vous immiscer sans le vouloir dans l'espace des autres, sans que cela ne soit votre intention, je le sais. Mais vous le faites inconsciemment, parce que c'est votre schéma appris. Ça vous fait plaisir de vous sentir utile autour de vous. Voir, c'est la seule manière qui va vous permettre d'avoir de l'auto-validation. Et quand la personne en face s'éloigne de vous, quand elle met des distances, vous allez interpréter son attitude comme un rejet. Vous vous dites qu'elle ne vous apprécie pas, qu'elle vous ignore. Donc vous allez intérioriser ça et le prendre contre vous, et vous allez vous critiquer et vous pensez que vous êtes quelqu'un qui suscite le rejet. Vous ressentez de la contrariété et peut-être même un sentiment d'abandon. Et donc, en fait, ça va juste faire perpétuer le cercle vicieux. Et ce schéma vient principalement de notre propre espace brouillé. Parce que vous acceptez inconsciemment d'être envahi par les autres. Vous reproduisez ce comportement sans vous en rendre compte. Vous allez franchir les limites de l'autre. Et ce n'est pas dans l'intention de lui manquer de respect. Je sais que vous êtes plein de bonnes intentions, mais c'est juste que vous n'avez pas appris à avoir un cadre clair pour vous et pour l'autre. Donc, en partant d'une bonne intention, parfois, vous voyez, on va alimenter un cycle d'auto-sabotage et on va repousser les gens qu'on aime. Et ça va alimenter un cercle vicieux. Plus vous cherchez à plaire, plus vous cherchez à aider autrui en partant d'une bonne intention, plus vous allez ressentir du rejet quand l'autre personne ne répond pas comme vous l'espérez. Et ça, ça va vous éloigner encore plus de vos relations, mais aussi de vous-même. Ce qui va perpétuer ce cercle vicieux, c'est aussi vos attentes envers les autres. Parce que vous attendez que les autres vous consacrent le même degré de dévouement que vous leur accordez. Vous espérez qu'ils répondent avec la même attention, avec la même implication, avec la même affection. Mais quand ce n'est pas le cas, vous vous sentez déçu, vous vous sentez rejeté, parfois même abandonné. Pourquoi ? Eh bien parce que vos limites sont floues, parce que vous n'avez pas cette notion claire de cadre, de séparation entre votre espace personnel et celui des autres. Et sans ce cadre, vous donnez tout sans limite, sans condition, et vous attendez inconsciemment à ce que les autres fassent la même chose pour vous. Mais la réalité, c'est que chacun a ses limites personnelles, chacun a son propre espace, et quand vous ne reconnaissez pas ces limites, ça va renforcer encore ce sentiment de rejet, ça va exacerber votre frustration. Alors imaginez ceci, c'est une situation réelle. Et si je vous partage ça, c'est simplement pour partager des prises de conscience. Peut-être que ça pourra aussi vous aider. Un jour, un abonné m'envoie un email qui fait plusieurs pages, mais vraiment plusieurs pages de lecture. Je commence à lire, mais très vite, je me rends compte qu'il est en train de partager beaucoup de détresse. Il partage des détails poignants de son vécu. Et là, je m'arrête au premier paragraphe. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais demandé à lire tout ça. Ce n'est pas une conversation consentie. C'est un partage imposé. Moi, j'ai l'habitude maintenant. Je sais, j'ai posé des limites claires. Mais quelques jours plus tard, ce même abonné m'envoie un autre email. Et cette fois, il exprime sa déception. Il dit se sentir ignoré parce que je n'ai pas répondu. Il va encore plus loin. Il me reproche d'avoir réactivé chez lui la blessure du rejet et de l'abandon. Alors même si je comprends la douleur de cette personne, mais cette situation illustre parfaitement ce que j'appelle les limites floues. L'absence de cadre brouille l'image. Et cet abonné a projeté sur moi ses attentes et frustrations. Pourtant, on ne se connaît pas. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas quelqu'un de mon entourage, on n'a jamais échangé auparavant, ce n'est pas mon client, et il ne m'a pas demandé si j'étais disposée à l'aider. C'était direct. Je t'impose mon histoire. Il a projeté sur moi ses propres attentes qui se sont superposées à cette non-relation. Parce que quand on n'a pas cette notion claire de cadre ou de limite, on finit par avoir des attentes irréalistes envers les autres. On projette nos besoins non comblés sur des personnes qui n'ont jamais donné leur consentement à ce rôle ou qui ne peuvent simplement pas combler ce rôle parce que ce n'est pas leur responsabilité. Et je veux être claire, je sais qu'il n'y a aucune mauvaise intention ici. Je le vois bien, au contraire, je comprends. Je ressens de la compassion pour cette personne. Je ressens de l'empathie pour sa détresse. Et je vois aussi avec clarté que le problème vient de ses limites floues, ce manque de cadre. Moi, ma responsabilité, elle est claire. Ce n'est pas de lui donner des leçons, c'est simplement de faire respecter mes limites. Ce n'est pas mon rôle de prendre en charge ses attentes irréalistes. Cette personne, je le sais, ne le fait pas par malveillance. Je sais que cette personne est désespérée, mais elle ne prend pas en compte sa propre responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle est elle-même perdue dans l'espace d'autrui. Et quand je vous dis que c'est là la racine du problème, c'est exactement ce que je veux dire. Lorsqu'on a endossé le rôle du sauveur toute sa vie, lorsqu'on n'a pas appris autre chose, on cherche souvent, sans s'en rendre compte, une figure extérieure pour combler nos propres besoins affectifs. Une figure extérieure de sauveur. On sauve les autres, mais on espère aussi être sauvés nous-mêmes. Le fait de trop partager ou de donner des conseils, ou bien des avis non sollicités, ça cache souvent un désir inconscient de fusion avec l'autre. Mais, et je sais que ça va être difficile à entendre, c'est une intrusion psychologique. Et si cette intrusion est tolérée par l'autre personne, donc là, dans ce cas, si moi je tolère cette intrusion, ça va nourrir un cercle vicieux où les attentes vont devenir de plus en plus grandes et les frustrations de plus en plus intenses quand elles ne sont pas comblées. On attend à ce que l'autre ressente ce que l'on ressent, partage nos émotions, à ce qu'il nous valide. Mais ce désir de fusion va engendrer des attentes asymétriques, des attentes irréalistes. Et là, il y a deux scénarios qui peuvent se présenter. Le premier scénario, c'est que l'autre ne répond pas à ses attentes. Donc ça va entraîner une profonde déception, ça va entraîner de la frustration et ça va réactiver les mêmes blessures de rejet et d'abandon. Et je sais que ça fait super mal. Deuxième scénario, c'est que l'autre se sent contraint, obligé de donner suite. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle aussi, souffre du même schéma, elle a des limites floues, et elle ne sait pas comment dire non, elle ne sait pas comment poser un cadre clair, elle ne sait pas comment protéger ses propres limites. De toutes les façons, dans les deux cas, ça va mener à des schémas relationnels dysfonctionnels. Des relations basées sur des attentes mal définies, un cadre mal défini, des ressentiments cachés, un déséquilibre constant. Et ça, avec le temps, ça va engendrer beaucoup de mal-être, beaucoup de conflits des deux côtés. Et ce schéma trouve sa racine dans les blessures de l'enfance. Ces blessures non soignées nous poussent inconsciemment à rechercher des relations où l'on espère une sorte de réparation émotionnelle à travers l'autre. On n'a pas appris à distinguer son espace émotionnel de celui des autres. Tout se mélange, tout se brouille. C'est pourquoi la première clé, la première étape, c'est de comprendre cette notion de limite floue et brouillée. Vous ne pouvez pas juste dire, tiens, je prends une anti-sèche, les techniques d'affirmation de soi. Comment avoir confiance en soi en 10 étapes? Ça ne marche pas. Vous devez d'abord commencer par retrouver de la clarté. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est en ayant le courage de se regarder en face avec honnêteté, avec transparence, c'est là où on commence à apprendre de l'auto-apaisement, comment s'apaiser soi-même, petit à petit. Sinon, c'est un cercle vicieux. Et vous méritez tellement mieux. Vous méritez une vie plus sereine, une vie plus épanouie. Et je vous parle d'expérience parce que j'ai souffert pendant des années à cause de mes limites floues. Et ça m'a coûté cher. Quand vous êtes dans le nuage, à l'intérieur du nuage, vous ne pouvez même pas soupçonner qu'il existe un autre monde à l'extérieur de ce nuage. Une fois que vous sortez de ce nuage de fumée, tout devient plus clair. Vous voyez les choses avec recul, avec perspective. Et moi, aujourd'hui, je viens de votre futur. Je suis à l'extérieur de ce nuage. J'ai réussi à m'en libérer. Et je peux vous dire une chose. Il y a un autre monde qui vous attend. Un monde où vous pouvez poser vos limites. Un monde où vous serez bien. Vous serez en paix avec vous-même. Un monde où vous n'allez plus être réactivé par une remarque ou par un comportement de quelqu'un. Vous allez dire « Ah, je me sens rejeté, abandonné ». Non, vous serez bien. Les limites floues, c'est ce qui vous empêche aujourd'hui de poser vos limites. C'est l'idée que je vous propose d'approfondir dans un contenu exclusif que je laisse en libre accès. Le lien est indiqué.
Voilà. Bon, ben voilà, c'était intéressant. Je pense que ça parle à beaucoup. On se fait une petite pause musicale et on se retrouve après pour le témoignage.
Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent.
mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Voilà. Ok, donc, on va partir sur un témoignage. Alors, c'est un sujet dont on entend parler beaucoup en ce moment, et pour cause, parce que je pense que la société est un petit peu, entre guillemets, malade. Et elle est produite par des êtres que nous sommes, et qui sommes potentiellement un peu, pas forcément réparés, pas forcément guéris de nos blessures. Et en fait, la somme que nous sommes constitue la société et la planète, et la planète va mal parce que les êtres vont pas forcément très bien. Alors, qui de l'œuf ou la poule? Est-ce que la société nous a poussé à être beaucoup plus dans l'extériorité, dans le fait de briller en société, de briller par le corps, par la possession, par un statut social, etc. Alors qu'à la base, il faut déjà aller à la rencontre de soi-même, dans son intériorité, dans la femme ou l'homme qu'on est, qu'on a envie de devenir, et de mettre en place des choses à l'intérieur de nous, en lien avec nous-mêmes, faire ce parcours intérieur avant de pouvoir briller à l'extérieur. Et en fait, la société a inversé les choses, et on est beaucoup dans l'extériorité, dans le paraître, et on est très peu, et enfin, on n'est pas assez dans cette question et ce chemin intérieur. Donc, qui de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est nous qui avons abandonné Est-ce que c'est la société qui nous a amené à ça? Bon, bref. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le sujet du témoignage, c'est la perversion narcissique. Alors que ce soit, les hommes sont des pervers narcissiques pour certains, les femmes sont des perverses narcissiques pour d'autres, pour certaines, en lien avec effectivement nos blessures d'enfance. C'est à la base c'est un schéma défensif de protection, sauf quand que ce schéma il vient heurter la personne en face, homme ou femme, la blesser, lui faire du mal. Voilà. Donc l'idée c'est toujours pareil, les capsules elles sont là pour nous permettre de comprendre pourquoi on peut être et flirter à la limite d'être un pervers ou une perverse narcissique. Il faut des fois aller regarder ça en soi. Et puis aujourd'hui ce qui est intéressant sur ce témoignage c'est que on peut mettre des mots dessus mais des fois on ne cerne pas trop ce que c'est. Et là le témoignage va permettre à des personnes de dire ah, mais peut-être, oh, merde, c'est peut-être ça que je vis moi avec mon conjoint ou ma conjointe ou ma partenaire ou mon partenaire. Merde, est-ce que l'autre n'est pas pervers narcissique, ou est-ce que moi-même, finalement, si j'ai un minimum de conscience de moi-même, est-ce que je flirte pas avec cette posture-là, des fois, vis-à-vis de l'autre? Voilà, c'est ça l'enjeu de ce témoignage. Donc on écoute ça et on se retrouve après.
Soundou, je voudrais qu'on s'intéresse également à votre histoire. Pour illustrer ça, je voudrais qu'on regarde deux photos. Vous allez me dire pourquoi elles sont importantes.
Alors, c'est moi. J'ai bien changé depuis.
Ah ben, je vous reconnaîtrais. Non, mais vous m'auriez montré cette photo, je vous aurais même pas reconnue, dis donc.
Ouais, j'étais très différente. Alors ça, c'est la première partie de ma carrière. Donc, je travaille dans la finance. Je travaille, en fait, dans un des plus grands hôpitaux. Donc, moi, je suis originaire de Bruxelles et je travaille dans un des plus grands hôpitaux de Bruxelles. Donc, j'ai une carrière dans la finance. C'est là que j'ai commencé ma carrière et que j'ai fait mes premières armes.
D'accord.
Jusqu'à monter déjà comme chef. À ce moment-là, dans le secteur financier. Voilà. Et ça, c'est mon deuxième emploi dans la finance où je suis analyste financière dans une des plus grandes entreprises en Belgique, dans le secteur financier. J'ai toujours été une femme très forte, très indépendante. Je suis issue d'une famille qui a cette mentalité-là. Et j'ai toujours été, j'utilise vraiment ce terme parce que c'était ça, très carriériste. Je suis diagnostiquée assez jeune HPI, diagnostiquée, je le dis.
Au potentiel intellectuel.
Voilà, exactement. Et je me sens jamais comprise par les gens, mais je sais que c'est aussi à cause des spécificités de mon caractère. Et donc ça, je l'ai appris très jeune. Et donc, je me dis juste, je ne trouverai jamais quelqu'un qui me comprend. Donc, je me sens quand même différente dans la société, etc. Mais justement, dans ma carrière, je me sens comprise financièrement et je suis très épanouie dans mon travail.
Oui, et en fait, c'est ce que vous dégagez cette force, vous dégagez cette puissance. En tout cas, dans votre travail, vous étiez cette femme épanouie, femme de caractère, carriériste. Les bases sont vraiment posées. Ouais. Et j'imagine que vous me dites ça aussi parce que de l'envers du décor a été moins glorieux à cette période-là. Qu'est-ce qui vous a séduite chez cet homme?
La compréhension.
Eh ouais.
Et je pense
la maturité.
Avec du recul, j'ai voulu vraiment comprendre les mécanismes, bien sûr, mais sur le moment même, je me sens enfin comprise par quelqu'un. Et au lieu de me dire il y a quelque chose de bizarre, je me dis juste, je suis encore jeune en plus, je me dis il n'y a jamais personne qui me comprend émotionnellement surtout. Il n'y a jamais personne qui m'accepte comme je suis. Déjà, moi-même, je ne m'accepte pas encore comme je suis à ce moment-là. Et on trouve la personne qui nous accepte exactement comme on est. Et c'est amplement suffisant à ce moment-là pour baisser sa garde, parce qu'il n'y a pas de signaux.
Baisser sa garde, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous qui étiez si... avec un cercle protecteur très fort dans votre travail, vous vous êtes abandonnée à cet homme, en tout cas, vous l'avez laissé rentrer dans votre sensibilité aussi. Et vous touchez. Il a été correct pendant combien de temps?
Alors moi, ça a duré la période de love bombing, ça a duré un an.
Vous aussi, vous connaissez cette expression?
Je l'ai appris après avec
ma thérapie. Ah oui, parce qu'il n'y a que moi qui ne connaissais pas, quoi.
Avec ma thérapie.
Mais elle a duré combien de temps,
ce love bombing? Moi, déjà, je n'avais jamais entendu parler de pervers narcissique. J'étais ni sur les réseaux, ni... j'avais pas le temps, en fait. Je ne regardais pas la télé, j'étais... Je suis carriériste, donc j'étudiais le soir, je travaillais la journée, je ne m'intéressais pas trop à ça. Donc, je n'avais pas connaissance de ce type de personnalité. Ce qui est bien, justement, aujourd'hui, c'est de prendre connaissance qu'il existe plusieurs types de personnalités. Mais du coup, je me suis rendu compte de vraiment d'absolument rien du tout pendant un an, parce qu'il avait cette... comme je dis, c'était un caméléon, en fait.
C'est-à-dire que dès que vous étiez... il se montrait tantôt protecteur, tantôt paternel, copain. En fait, il se moulait à vos besoins pour se rendre indispensable. Est-ce qu'on peut dire ça?
Parfaitement. C'est vraiment... si c'était un casting pour un rôle, c'était le casting parfait, en fait. Parce qu'il remplissait toutes les cases. Et sur le moment même, on ne cherche pas... pourquoi? On se dit juste, j'ai trouvé la personne qui
l'âme sœur,
toutes mes cases.
Celui qui me complète parfaitement.
Exactement.
Et au bout de combien de temps alors? Donc un an parfait finalement.
Parfait, vraiment parfait. Ça va très vite.
Ouais.
On habite ensemble très très vite. On voit l'avenir ensemble très vite. Moi, j'avais une vision très spécifique de ma vie, en termes de carrière, mais aussi en termes de vie de famille, en termes d'investissement immobilier, etc. Et c'est la personne qui ne discute en rien,
ouais,
qui est d'accord avec
dans
tout,
vos besoins, ouais.
Ou pire, qui a su que je voulais quelque chose et qui me dit « Ah, j'aimerais bien ça ». Et donc, on se dit oh, « On a les mêmes envies, c'est génial, c'est l'homme parfait ».
Quand vous faites le fil, après vous allez me raconter ce qui s'est passé, mais quand vous refaites le fil à l'envers, le film à l'envers, il y a des choses que vous auriez pu percevoir de son comportement?
Oui, complètement. Alors moi en plus, quand j'étais diagnostiquée HPI, j'ai un sens de l'analyse profond, ce qui est encore plus choquant et bouleversant en fait.
De l'analyse oui, mais du décodage des émotions pas toujours. Hein. Donc
c'est deux choses différentes en fait.
Choses différentes.
Mais si on le sait pas, on se dit je suis à l'abri, on part du principe qu'on voit tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une dépendance qui a été créée. Et bien sûr qu'on voit certaines choses. Mais à cause de cette dépendance, on essaye de lisser ce qu'on voit et de se dire c'est rien. Mais j'ai un exemple. Je fais quelque chose qui le dérange et je vois sa mâchoire qui se crispe. Et ça, c'est un signal. Je le vois, sa mâchoire se crispe. Ça dénote avec ce qu'il dit.
Avec sa douceur d'apparence.
Ça, c'est un exemple marquant, mais il y avait plein de petites choses comme ça.
Mais qu'on constate après.
Oui, comme ils sont dans un rôle, ils ont parfois du mal à le tenir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils apportent quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils remplissent une fonction, ils deviennent une écoute attentive, ils apportent de l'affection. Et c'est là où finalement, on baisse aussi la garde. Il y a le côté bombing émotionnel, puis il y a le côté qu'on y trouve un petit peu son compte au début. Après... le bilan est très déséquilibré, il est même catastrophique. Mais au début, on y trouve son compte. Donc on se dit, grâce à cette personne, je me sens boosté. Et puis c'est des personnes narcissiques, donc elles aiment bien aussi être bien accompagnées. C'est-à-dire que dans un premier temps, elles acceptent de partager un petit peu le haut de l'affiche parce qu'elles sont bien accompagnées. Mais dans un second temps, il y a l'étape que vous avez décrite de la dévalorisation, mise sur le côté, parce que ça vous, un, la personne prend trop de place. Deux, il y a ce côté pervers d'emprise et de plaisir à vous voir souffrir.
C'était quoi votre point faible, vous?
Alors, moi, justement, je le découvre plus tard, mais il y avait... j'ai beaucoup d'empathie. Donc ça, c'était la première chose. Il jouait beaucoup sur la culpabilité. Et je suis hyper perfectionniste. Et donc, j'ai toujours eu un gros souci avec mon corps, mon apparence. Donc ça, c'était aussi ma faille sur laquelle il jouait énormément.
Jouait comment? C'est-à-dire que les premières remarques ont été là-dessus?
Oui, c'était parfois « t'es moche, qui t'accepterait comme ça, tu ressembles à rien, t'as des cernes, tu travailles trop, regarde ton visage », ce genre de choses.
Vous rendiez compte que ça n'était pas normal qu'il vous parle comme ça?
Alors, vu que justement, c'est ma faille, c'est-à-dire que c'est ce que je me dis à moi-même en me regardant dans le miroir.
Ah, il abondait.
Forcément, si c'est quelqu'un qui me comprend, qui est comme moi et qui voit la même chose que moi, je peux que croire à ce qu'il dit. Sauf que ce n'est pas ce que les gens voient. J'ai même tendance à beaucoup le défendre publiquement et auprès des gens, à lui donner une belle image, à toujours faire en sorte qu'il ait une belle image, parce que finalement, il reflète ce que je suis aussi. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Et je n'ai pas envie de refléter ça. Si, par exemple, on a invité en famille, il voulait rarement m'accompagner, ben, du coup, je n'y vais pas non plus, parce que si j'y vais sans lui, ça donne une mauvaise image de lui. Et donc, ben, je vais dire, j'ai trop de travail et ça passe.
Vous êtes retrouvée isolée, hein?
Complètement isolée, parce que justement, il joue beaucoup sur la culpabilité. Et donc, au début, c'était « si tu sors, tu vas me laisser tout seul à la maison, alors que je ne travaille pas. » Et donc, ça claque, c'est comme ça.
Donc, la culpabilité, le rabaissement physique. On parlait de finances tout à l'heure. Lui aussi, il vous a mis sous sa coupe financière.
Alors, nous, c'est curieux parce que j'ai gagné beaucoup mieux ma vie que lui, mais il a réussi à le faire. Et c'est ça que j'écoutais tout à l'heure. C'est qu'en fait, il s'est trouvé plein d'excuses pour ne pas pouvoir contribuer financièrement au ménage. Il y avait toujours quelque chose et c'était des raisons qui avaient du sens. Des choses liées à son passé, etc., qui avaient du sens. Et moi, j'ai toujours eu cet esprit d'un couple, on est une équipe, on se soutient. Et comme ça arrivait petit à petit, parce que la première année, il payait tout avec moi, etc., comme ça arrivait petit à petit, je me suis dit, c'est une mauvaise période. Et donc, j'ai commencé à tout payer au sein de
ménage. Tout prendre en charge.
Et c'est au final un peu aussi une
prison
financière, parce que du coup, on paye tout seul. Et on a moins d'argent pour nous.
Bah oui, vous pouvez être pris à la gorge de ces dépenses et finalement ne plus pouvoir en profiter.
Exactement. Et en plus, c'est chaque mois, est-ce qu'il va contribuer ou non? Parce que il jouait là-dessus.
Oui, une pression même.
Pas quelque chose de définitif où j'allais alors m'organiser financièrement, vu que c'était quand même mon métier, et j'allais alors faire en sorte de gérer le ménage différemment ou les dépenses du ménage différemment. C'était un mois, il va un peu participer, un autre, plus du tout. Et donc, de nouveau, on a ce déséquilibre alors qu'on cherche, nous, justement, un équilibre. Et c'était aussi une pression financière, finalement.
Ça a eu une incidence sur qui vous étiez au travail?
Non. Et en même temps, oui. C'est-à-dire que pas dans mes compétences, mais ça a eu une incidence, si je puis dire, positive. C'est que comme c'était ma seule bulle de liberté et que j'avais ce côté un peu carriériste, c'est que je me suis vouée corps et âme au travail. J'étais... parfois jusque minuit au bureau, alors qu'on ne me le demandait pas.
C'était votre échappatoire.
Complètement.
Vous êtes devenue workaholic, c'est ce qu'on dit.
Oui, et puis en plus, c'était un endroit où on me voyait avec des étoiles dans les yeux, où j'étais un peu la fille prodige des chiffres.
Vous étiez valorisée.
Complètement.
Alors que vous étiez rabaissée. Ouais.
Voilà, et donc ça, on a une double addiction. C'est-à-dire, d'un côté, on a une addiction parce qu'il y a cette manipulation à la maison affective, une addiction affective, et puis au travail, de reconnaissance pour combler celle qu'on n'a pas à la maison, qui est crescendo. Et donc, forcément, on travaille de plus en plus. On veut un plus gros poste, un plus gros salaire, une plus grosse reconnaissance.
Ouais, je comprends.
Et on œuvre pour ça parce qu'on est juste quand même. Donc, on veut mériter cette reconnaissance.
C'est très clair ce que vous dites, c'est très clair. Est-ce que ça a été quoi le déclic pour vous, Soudo?
Alors, moi, je dis toujours, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière. Je pense qu'on est conscient depuis le début qu'il y a quelque chose de pas normal. J'avais lu une phrase qui disait « Si vous trouvez qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. » Et je trouve cette phrase très vraie parce que je pense que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et puis un jour, il y a eu une goutte d'eau et ça va paraître anodin. Donc en fait, j'étais alitée et donc je ne travaillais plus à ce moment-là. Et je lui envoie un texto en lui demandant d'aller chercher quelque chose à la pharmacie. Et je suis alitée, donc je ne peux pas y aller. Et il me dit, je ne peux pas, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, désolé.
Et pour vous soigner, c'est gonflé.
Etc. Et moi, toujours dans l'empathie, oui, c'est vrai, il a eu ça à payer encore, etc., etc. Donc, je le comprends. Et ma voiture est en panne. Ça m'a fait rire, l'histoire de la voiture, parce que c'était aussi son motif, en fait, pour la voiture. C'était toujours son motif pour avoir des dépenses extra. Et donc, le lendemain, je savais qu'il n'avait plus de voiture. Je l'appelle et je lui dis, mais t'es en voiture, là, j'entends que t'es en voiture. Il me dit, oui, c'était plus simple. J'avais des trucs à régler cette semaine, donc j'ai été louer une voiture. Et d'ailleurs, c'est mon pote qui loue la voiture. Et pour 30 euros de plus, je pouvais avoir une voiture de luxe. Du coup, j'ai pris la voiture de luxe. Et moi, ça a été mon déclic. J'ai raccroché, je suis restée longtemps avec ma main sur le combiné. Et là, je sais pas, il y a eu un déclic.
Oui, je comprends.
J'ai refait toutes les années.
C'était aberrant.
En me disant, mais enfin, mais c'était clair, en fait. Mais t'es bête ou quoi, il se fout de toi. Mais là, c'était le fait qu'il y ait un motif médical qui refuse.
Pour mettre les 30 euros dans la voiture,
c'est sûr. Voilà, c'était la goutte d'eau. Ça a été pour moi le déclic, vraiment.
Voilà. Un témoignage parmi tant d'autres hein, de ce qu'on retrouve sous le nom de perversion narcissique. Voilà, si ça vous permet un petit peu de mieux comprendre, peut-être de vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est l'enjeu. Alors, ce que je vous propose, on se fait une petite pause humour, et puis après, on se retrouve pour la dernière capsule.
Hey, vous trouvez ça va ? Ouais, moi ça va. Je suis obligé, je vais vous parler de femme parce que j'en ai une et elle m'a dit de faire ça. Et j'écoute. Voilà. Moi ça va faire 2 ans bientôt que je suis marié et ça va, je l'aime bien, ça va. Il n'y a pas une vraie définition de l'amour, tu sais, il n'y a pas un truc sûr à 100%, t'es jamais sûr, je veux dire, tu sais. La gastro a des symptômes beaucoup plus évidents, tu le sais. T'sais. Ça coule, tu sais que c'est la gastro, c'est ça. Il n'y a personne qui fait... C'est quoi ça? Mais ça coule de mon cul, c'est quoi ça? Eh ben, j'ai un rhume du cul, voilà. Je vais me moucher. C'est comme les sentiments. J'ai des sentiments pour ma femme, évidemment que j'en ai. Mais tu sais, c'est pas un truc quantifiable, je sais pas exactement combien. Et je peux pas dire à ma femme, écoute chérie, j'ai des sentiments pour toi. Ouais. J'en ai 9, voilà. J'en avais 10, mais je t'ai vu courir et c'est pas... Tu n'as pas cette qualité. Non, non. Avec ma femme, quand on s'est rencontrés, dès le début de notre relation, elle a voulu qu'on se trouve des petits surnoms, alors qu'elle a un prénom qui fonctionne très bien. Tu sais, il n'est pas cassé, il marche bien. Quand je l'appelle, elle répond, ça marche. Et elle a voulu qu'on se trouve des petits surnoms. Et moi, je joue le jeu. Voilà, les hommes, on joue le jeu des femmes, parce que voilà, des fois, on veut que la nuit, bah, il se passe des... Ouais, moi, je vais te dire, s'il n'y avait pas l'aspect sexuel du mariage, je me serais marié avec un pote à moi. C'est ça que j'aurais fait, c'est sûr. Jamais mon pote, il m'aurait fait, frère, trouve-moi un surnom mignon. Un truc beau gosse, genre doudou. Et je joue le jeu. Du coup, maintenant, on a des petits surnoms. Moi, elle m'appelle John. Ok. Et moi, je l'appelle Franck. C'est son surnom. Ok. Et depuis que je me suis marié, il y a vraiment des choses qui ont changé dans ma vie. Il y a des objets qui sont chez moi maintenant qui n'étaient pas là avant. D'accord ? Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais aux toilettes, j'ouvre le placard des toilettes et je tombe sur un test de grossesse.
Wow.
J'ai pissé dessus, d'accord ? Tu sais, j'ai pissé dessus, j'attendais la réponse et j'avais un peu peur quand même. Hey, je me dis, imagine, c'est positif. Comment t'annonces à ta femme que t'es enceinte ? C'est pas facile ce truc. Et le pire, c'est que je veux des enfants avec Franck. Vraiment, c'est un truc que je veux. Ma femme a déjà un enfant. Elle a un petit garçon, il a 8 ans. Et moi, j'aime pas dire que c'est comme mon fils. J'aime pas dire ça parce que ça sous-entend que ça ne l'est pas. Et c'est mon fils. C'est mon petit garçon, c'est mon bonhomme, c'est à moi, c'est mon petit garçon. Et vraiment, je fais de mon mieux avec ce petit garçon. Il est là, qu'est-ce que je fais ? Je fais vraiment de mon mieux. Et ma position par rapport à cet enfant, elle est vraiment cool parce que s'il s'en sort dans la vie et que ça devient quelqu'un de bien, c'est un peu grâce à moi. Sinon, il a un papa. J'irai pas te chercher en garde à vue, mon pote. Hein, et je fais vraiment de mon mieux avec lui. On fait plein d'activités tous les deux. On est très fusionnels. Ça se passe super bien, lui et moi. Et il y a des gens, quand ils nous voient tous les deux comme ça et qu'ils découvrent que c'est pas mon vrai fils, ils viennent me voir et disent oh, c'est trop beau, c'est génial ce que tu fais pour lui. Dans quel monde on vit pour que quelque chose de normal devienne génial? Je veux dire, il a 8 ans, il vit chez moi. Comment tu veux que je le considère à part comme mon fils? Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, je peux pas le considérer comme un colocataire qui paye pas le loyer. Ça se fait pas. Tu sais, je peux pas rentrer chez moi tous les soirs et faire hey, t'es pas chez toi ici. Non. C'était ta mère le projet. Ouais. Va-t'en. Pars. Loin. Et moi, avec ma femme, je suis vraiment un bonhomme, d'accord? Je suis vraiment un bonhomme, d'accord? Un bonhomme. Par exemple, quand on est en voiture avec ma femme, c'est toujours moi qui conduis. Je maîtrise la situation. Toujours moi qui conduis comme ça. bonhomme, je conduis comme ça, c'est moi qui conduis comme ça. Et quand je conduis, ma femme, toujours, toujours ce qu'elle fait, c'est qu'elle me caresse la nuque avec ses petits doigts comme ça, elle me caresse la nuque comme ça. Mais je suis un bonhomme, donc je peux pas montrer que j'aime bien, donc je suis comme ça, bonhomme. Tu sais, alors que dans ma tête, je suis comme...
Mais c'est trop bien! Arrête, c'est dangereux!
Il y a les voitures, ça ramollit les jambes! Oh, elle est pénible à chaque fois! Et il n'y a pas longtemps, tu sais, moi, je suis en voiture avec ma femme, tu sais, moi, je conduis bonhomme, deux doigts, tu vois, comme ça. Un volant un peu triangle, quand même, tu vois, je conduis comme ça. Et tu sais, ma femme, elle ne me caresse pas la nuque. Malade ou quoi, tu sais, je commence à m'énerver, mais je suis un bonhomme, je peux pas lui faire, putain, vas-y, Francky, t'abuses, là, un peu, là, toi. Tu sais, je commence à m'énerver, je suis malade ou quoi, tu vas descendre de ma voiture, tu crois que je suis un bouffon, quoi, tu sais, je commence vraiment à m'énerver, je m'énerve. Et après quelques minutes, je me rends compte qu'en fait, j'étais pas énervé, c'était pas ça l'émotion, en fait, j'étais en train de bouder. Et ça m'était jamais arrivé. Et je sais que je boudais. Je sais que je boudais parce que quand ma femme, elle m'a demandé, chérie, qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai fait, non, rien. Et en vrai, les femmes, j'ai compris quand vous boudez pourquoi vous dites jamais la vérité. C'est parce que la raison, elle est toujours tellement nulle. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. C'est, il y a un truc qui lui plaît pas, mais elle sait que c'est pas assez pour faire une embrouille. Mais elle peut pas laisser passer ça. Donc, dans sa tête, elle se dit, bah voilà, je vais faire genre, c'est la fin du monde. Voilà ce que je vais faire. Et tu sais, elle se met à bouder. Même sa voix, elle change. Tu lui demandes qu'est-ce que t'as, elle te fait bah, et elle peut bouder pendant des... Bouder, ça devient une activité, tu sais. Ses copines, elles l'appellent, tu fais quoi? Bah rien, je boudis, il me reste 20 minutes et c'est fini. Et elle fait ça pendant des heures et elle continue à te mentir. Elle te regarde dans les yeux, elle te dit qu'elle a rien, elle ment comme c'est. Les femmes, c'est pas des gens bien, d'accord, c'est... Ça fait du bien quand ça sort, ça, hein. Ouf. Et le vrai problème, je vais vous dire, le vrai problème, c'est que... Les femmes, pour qu'elles soient heureuses, elles ont besoin de beaucoup trop de choses. C'est une femme, pour faire son bonheur, il faut que tu lui offres des cadeaux, que tu fasses des trucs avec elle, que tu passes du temps, que tu sortes, que tu lui parles, que tu l'écoutes. Ouh, c'est long. Et c'est... Nous, les hommes, notre bonheur, il est facile. Moi, je suis un homme. Mon bonheur, il est simple. Moi, pour que je sois heureux, il suffit, par exemple, je suis en voiture, je conduis tout seul. Mais quand même, bonhomme, tout seul, mais bonhomme, je conduis comme ça. Mon bonheur, il est facile, je conduis comme ça. Je me décale pour laisser passer une moto, il fait ça avec son pied. Ça, c'est le bonheur. Ça me rend tellement heureux, putain. Tu sais, des fois, j'ai envie de sortir mon pied. De rien. Et mon ami pour la vie, toi. Et tu sais, moi, j'ai vraiment du respect pour les gens qui sont mariés ou en couple depuis longtemps. Tu sais, les gens qui sont ensemble depuis 30, 40, 50, 60 ans. Comment ils tiennent? Comment ils font? C'est long. C'est pas un film, c'est long, ce truc. Tu sais, je veux dire, quand t'as passé ne serait-ce que 40 ans avec la même personne, normalement, 40 ans, ça y est, c'est bon. Normalement, 40 ans, vous vous êtes tout dit. C'est bon. C'est vrai. Normalement, 40 ans, t'as dit tous les mots. C'est bon. Il faut que tu trouves des trucs que tu lui as jamais dit. Hé, chérie, xylophone. C'est vrai. Et depuis que je me suis marié avec cette personne, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une grosse différence entre juste être en couple et être marié. Il y a une énorme différence. Quand t'es juste en couple, il faut être parfait. Il faut être toujours à l'heure, toujours bien habillé, toujours bien parlé, toujours parfait, parfait, parfait. Sinon, elle part. Alors que quand t'es marié, ça va. On a une marge de manœuvre. On est large. Tu sais, il n'y a pas longtemps, genre, chez moi et Franck, elle commence à gueuler. C'est... Mais enlève tes chaussures. Et t'as pas pris le pain. Et t'es arrivé en retard. À la fin, j'entends que du bruit. Et tu sais, moi, j'ai envie de répondre pareil. Tu sais, les Mongols à la mode. Ok Franck, ok. Termine. Reproche-moi tout ce que tu as à me reprocher. Vas-y, termine. Je te laisse. T'as fini? J'ai fait que ça. C'est tout ce que j'ai fait. Ok. J'accepte. À mon tour. Une question. Tu vas divorcer pour ça? Non. Merci beaucoup.
Voilà. C'était Jason Brokers et c'était le sketch s'appelait Le mariage. Allez, on part sur la dernière partie de l'émission, sur une capsule qui s'appelle Auto-sabotage amoureux, l'explication. Ouvrez bien vos écoutilles et à tout à l'heure.
Imagine, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, à qui tu plais aussi, et tout pourrait bien se passer, mais tu tombes pas amoureuse. Ou alors tu tombes amoureuse, mais c'est parasité par des trucs du genre « c'est trop beau pour être vrai, à un moment ça va merder » et du coup t'en profites pas. Imagine, tu as un crush sur quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager et tu te contentes du peu que cette personne a à te donner, des miettes d'affection, de sexe, de temps, plutôt qu'agir de manière cohérente avec ton désir de construction. Et lui dire non à ce gars, Si t'es pas raccord avec ce que moi j'ai envie, bah, ne perdons pas notre temps. Imagine, tu prends de la distance dès que tu t'attaches à quelqu'un parce que tu anticipes le fait de souffrir d'une rupture que tu vois venir, à tort ou à raison. Rupture que tu finis par provoquer par toi-même parce que c'est moins pire de la choisir que de la subir. Et enfin, imagine que tu as un sujet un peu délicat à aborder avec une personne que tu aimes bien et tu repousses le fait d'aborder ce sujet-là parce que ça va gâcher le moment. Sauf qu'au final, tu ne profites pas vraiment du moment ensemble parce que toi, tu es parasité par le sujet délicat et le poids que ça a sur toi. Qu'au final, tu n'oses jamais aborder, que tu vas peut-être aborder un jour en t'excusant avec un malaise incommensurable. Malaise qui va probablement générer du malaise en face et qui va non seulement gâcher le moment, mais en fait gâcher un peu tout. Pourquoi est-ce qu'on reproduit sans cesse les mêmes schémas et les mêmes comportements dans nos relations amoureuses alors même qu'on sait que ça craint ? Et nous faisons cette vidéo accompagnée de mon merveilleux conifère, le Pinus Chief Joseph, qui illumine nos jardins et les cœurs de sa couleur dorée à l'arrivée du froid. Si tu es encore en vie pour regarder cette vidéo, c'est que tu as survécu à tout ce que tu as vécu. BG. À tout ce que tu as vécu, de sympa ou de pas sympa, ton corps s'est adapté. Il a mis du stress pour s'activer et obtenir ce que tu voulais, que tu l'aies aujourd'hui ou pas. Il a mis un couvercle sur certaines parties de toi, sur certaines émotions, soit parce que c'était personnellement trop dur à vivre, soit parce que ton environnement n'y était pas adapté, et pas l'inverse. Réécoute cette phrase. Ton corps s'est adapté à tous les découragements que tu as vécu. Soit en mettant plus d'énergie pour ne pas se laisser abattre et redoubler d'efforts pour l'avoir, encore une fois que ça ait marché ou pas, et justement peut-être parfois à bout d'énergie, soit en mettant moins à travers de la résignation pour économiser de l'énergie et survivre avec l'énergie qui nous reste, parce que si on n'a plus d'énergie du tout, on meurt. Et à force de s'adapter un peu à tous les événements comme ça, c'est devenu la normalité pour ton corps. En fait, les conditions que ton corps a créées pour s'adapter à la vie que tu as traversée, c'est ça qui est devenu la normalité pour ton corps, plus précisément pour ton système nerveux, qui est responsable de ta survie. Toute cette adaptation à ce que tu as vécu, c'est ce qui t'a permis de survivre. Donc ton corps, ton système nerveux, qu'est-ce qui se dit ? BG la team, on a réussi ! Ne changeons pas cette équipe de winners et faisons tout pour consolider nos acquis et survivre encore plus longtemps. C'est là que tes problèmes et leur adaptation sont devenus ta zone de confort. Dans le sens, ta zone de connu et le système nerveux est confortable avec ce qui est connu. Même si toi t'en chies pendant ce temps-là. Tu ne t'ouvres pas à un futur plus radieux que ça pour ne pas répéter le passé et au final, à chaque fois que tu oses sortir de ta coquille, paf, qu'est-ce qui se passe ? Tu répètes le passé. Genre, t'as peur de l'abandon, donc dès que tu t'attaches, t'as peur que l'autre s'attache pas ou se désattache. Donc tu changes de comportement pour éviter que ton cauchemar ultime ne se produise, c'est-à-dire la rupture que tu associes à de l'abandon, mais un adulte ne peut pas être abandonné. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Tu deviens relou et l'autre, ben, il se barre et donc tu te retrouves abandonné en PLS. Malheureusement normal. Et oui, c'est l'hiver. Qui dit hiver, dit mouchoir. Et tout ça, c'est tes mécanismes de survie. C'est ton système nerveux, en fait, qui est habitué au mode survie, qui cherche à maintenir son homéostasie de survie. On ne change pas une équipe de winners, c'est-à-dire survivre et pas kiffer. Le système nerveux, il s'en fout de kiffer, il veut survivre. Et si tu as survécu jusque-là, super, on ne change pas cette équipe de winners. Et on appelle ça de l'auto-sabotage uniquement parce qu'on fait référence à ce qu'on n'arrive pas à obtenir malgré tous nos efforts. Alors que du point de vue du système nerveux, c'est un succès. Ton système nerveux, il n'en a rien à foutre que tu sois heureuse dans l'absolu, il veut que tu survives. Et ça, mission accomplie ! Est-ce que tu peux t'en féliciter ? Oui, même si c'est un petit peu incomplet, mais quand même. Bon, enfin, doit-on vraiment se contenter de ça ? Bah non, on est quand même en droit d'aspirer à plus. Et pour sortir de tes mécanismes de survie, l'idée, l'idéal, c'est d'apprendre à réguler ton système nerveux à travers des accompagnements ciblés. Et il y a aussi un autre angle qui aide, avec lequel moi j'ai commencé, parce que je ne connaissais pas tous ces accompagnements, donc j'ai commencé par autre chose qui m'a quand même bien aidée et qui est quand même assez accessible. Avant de poursuivre, je voudrais que toi et moi, on prenne un petit temps de réflexion ensemble. Tu peux mettre pause sur cette vidéo si jamais ça t'aide. Et justement, là, je voudrais que tu prennes du recul quelques instants et que tu te demandes, mais en fait, quels sont précisément les comportements que je répète à l'intérieur de ma vie amoureuse et qui me desservent ? tu peux mettre pause sur cette vidéo le temps d'avoir 2-3 exemples. Une fois que tu as un ou deux exemples, demande-toi à quel besoin ce comportement répond. Parce que tous nos comportements répondent à un besoin. Et ça peut être, en général, c'est très souvent la sécurité, mais ça peut être un petit peu plus fin que ça. Voici quelques exemples. Je reste célibataire alors que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. À quel besoin ça répond ? Que je reste célibataire volontairement ou involontairement, peu importe. Et non, je ne vais pas donner les besoins associés puisqu'ils vont être différents pour chacun. Je dis oui à quelqu'un alors qu'en fait, je pense non. À quel besoin ça répond ? Je réponds au message de mon crush hyper vite et donc ça donne une image de moi hyper disponible, à disposition. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il dispose de moi et c'est pas sexy, ça ne va pas là où je veux. À quel besoin ça répond de répondre si rapidement au message ? Je couche rapidement dans l'espoir que ça débouche sur une relation. À quel besoin ça répond ? Je provoque une dispute dans les moments où j'ai besoin de... Et je sais que nommer ses besoins, bon, c'est pas forcément facile. Donc, pour t'aider, je t'ai préparé une petite fiche des sentiments et des besoins qui va t'aider à nommer précisément les sentiments et les besoins que tu vis. C'est hyper important, déjà parce qu'un besoin bien nommé est un besoin à moitié satisfait, ce serait quand même dommage de s'en priver. Mais en plus, le fait de faire cette démarche va nourrir ton besoin de reconnaissance, de validation, de certitude. Bref, l'air de rien, cette petite fiche, elle va contribuer à un niveau très solide à ton épanouissement. Elle est gratuite, elle est accompagnée de sa mini-formation gratuite, elle aussi, qui va t'apprendre à l'utiliser, et pour la télécharger, ça se passe dans la description. Une fois qu'on a identifié le besoin, ah oui, je lui demande ce qu'il veut manger pendant qu'il joue aux jeux vidéo, enfin, non pas parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il veut manger, en fait je m'en fous, en fait j'ai besoin d'attention. Déjà on se sent un petit peu plus au clair, mais aussi ça ouvre d'autres portes pour satisfaire ce besoin d'attention d'une autre manière, que ce soit en termes de personne, en termes d'endroit, en termes de timing. Changer ses habitudes, ça se fait lentement, ça se fait petit à petit, la première étape étant de le voir, de prendre la main dans le sac. Et bien sûr que ça fait chier tout le monde que ça se fasse petit à petit, lentement, etc. Parce qu'à partir du moment où on a conscience que quelque chose pose problème, on se projette dans ce problème résolu et on veut qu'il soit résolu tout de suite. Ça ne se passe pas comme ça, pourquoi ? Parce que vouloir changer rapidement ne fait que renforcer les habitudes déjà présentes. Parce que la team des BG, là, la team de winners de la survie, elle se dit « Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Les gars, quelqu'un essaie de changer l'ordre établi. Alors on y va, on met les bouchées doubles !» Alors que si t'y vas doucement, genre petit à petit, mais vraiment, étape microscopique par étape microscopique, ta team de winners de la survie, là, elle va rien voir venir. Le changement sera tellement minime qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. On n'est pas en train de changer l'ordre établi. Mais ça, c'est parce qu'elle ne voit pas ton plan. Et ça va passer crème parce qu'en fait, tu vas y aller tellement étape par étape, tellement progressivement que personne, aucun mécanisme de survie ne va s'alarmer. C'est juste que ça va te demander de la constance, de la persévérance. Mais en fait, ta team de winner de la survie, tu vas la réhabituer l'air de rien, l'entraîner tout petit, à des trucs nouveaux. On ne brusque personne. Oui, c'est long, oui, c'est chiant, mais on ne tire pas sur l'herbe pour la faire pousser. De toute façon, quel autre choix tu as ? Donc tu peux changer ces comportements, ces mauvaises habitudes affectives par toi-même. Pas forcément tous, parce que certains vont demander une thérapie. Mais il y en a quand même pas mal que tu peux changer par toi-même, à condition d'avoir une vraie clarté et une vraie précision sur pourquoi et comment tu vas les changer. Et je t'ai préparé un atelier pour disséquer, mettre des étapes, tu trouves le lien dans la description, comme le reste. Cet atelier, il va te donner du sens et des étapes actionnables et donc de la force et de la confiance pour changer ce qui doit l'être. Ça te permettra aussi de savoir quel comportement tu peux changer et quel comportement requiert une thérapie. Et du coup, ça rendra ta thérapie d'autant plus efficace parce que tu iras avec une demande ciblée. Tu sauras mieux pourquoi tu y vas et tu viendras moins avec ton espèce de bazar là. Bonjour, il y a tout à refaire. Par où on commence, je ne sais pas. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Je sais, je suis dedans. Je vais en thérapie quand tous les trucs que j'ai essayés, et je suis coach, donc j'ai quand même pas mal de billes pour changer, et bien que quand, même avec tout ça, j'ai pas réussi. Ça veut dire qu'il y a un truc qui me dépasse, mais en attendant, dans cet atelier, je vais te transmettre les outils qui m'ont permis quand même de faire un bon bout de chemin en autonomie et qui me servent toujours. Donc certes, tu n'es pas toute puissante, oui, il y a des choses qui te dépassent, mais avec les bons outils et les bonnes manières de faire, tu peux quand même vraiment progresser de manière significative avec les bons outils, le bon état d'esprit, mais tout ça, ça va avec. Et justement, c'est par l'auto-éducation que ça commence. Le lien est dans la description.
Voilà. Voilà, et ben écoutez, comme on dit, que va piano, va sano. Voilà, chaque chose, enfin voilà, tranquillement, petit pas par petit pas, le changement se met en place et on évite de lever la herse des mécanismes de survie, je cherchais mes mots, voilà, qui font qu'effectivement ça peut bloquer. C'est intéressant, son analyse est intéressante, elle vaut le coup d'être réécoutée. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère que cette émission vous a plu. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, au revoir.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier.
Figures, now I got a bank with coots. I'm big bossing. No, I ain't from Milwaukee, but I'm a Milwaukee. Lex Luger on the beat. This shit's knocking. Bad bit told me that she don't twerk. Now she's TikToking. I see the back from the front, like she's crisscrossing. Needed a ride, said I can't get their keys. Now we're lip locking. Mains furs, and we got matching watches. If your wrist watching, anytime you see my name, know that's a hit dropping. And the streets ain't like F1, there ain't no pit stopping. Pulled up to the venue, jump on the stage, and I got the shit. Yeah. I just turned the L into a lesson, that's another win. Keep the balance, yeah, that's how you keep the money coming in. I check my balance, and it look like a bag of onion rings. Check the cameras, better be Lionel Messi if you're running in. Gotta protect my energy, cause I'm really him. Hyperactive, self-medicated.